Bonjour, c'est Bernard pour un retour sur le rallye de Monte-Carlo que l'on pourra vivre de l'intérieur, comme on l'a déjà fait d'ailleurs pendant le rallye, la semaine dernière, du jeudi au dimanche ou à peu près. Mais avant de le vivre de l'intérieur, je vais donner quelques indications sur les rallyes pour les non-initiés. Donc un rallye, pour un rallye, on définit un parcours. Sur ce parcours, on installe des épreuves spéciales chronométrées. Une épreuve spéciale, c'est une portion, un tronçon de route qui peut aller de 10, 15, 20, 30 km, fermé à la circulation, dans laquelle, sur ce tronçon, les concurrents du rallye sont lancés toutes les minutes, quelquefois toutes les 2 minutes. On peut également, si on rattrape régulièrement un concurrent qui passe devant, on peut demander 2 minutes pour ne pas être gêné dans le cas d'un dépassement éventuel. Donc ça, ce sont les épreuves spéciales. Et puis les épreuves spéciales sont reliées entre elles par ce qu'on appelle un parcours de liaison sur lequel les concurrents doivent respecter le code de la route et un horaire précis. Ça veut dire que si on doit pointer à 10 heures, si on pointe à 10 heures et passer de quelques secondes ou à 9 heures, si on pointe en avance, on est pénalisé. Et les pénalités s'ajoutent au temps total réalisé dans les épreuves spéciales pour donner le classement final. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair pour les non-initiés. Pour revenir sur le rallye de Monte-Carlo, c'était la 94e édition. C'était à peu près 1500 km en tout, dont 344 km d'épreuves spéciales, le tout réparti sur 4 jours. Et cette année, on a vécu à nouveau un vrai Monte-Carlo, au sens où on l'entendait habituellement, dans la mesure où les concurrents, on va en reparler tout à l'heure, ont connu de la route humide, un peu mouillée, très mouillée, de la glace, des plaques de verglas, de la neige fondante qui, bien sûr, donnait de la boue, également du brouillard, ce qui a amené Sébastien Ogier, neuf fois, champion du monde, à dire après une spéciale: je n'ai jamais rien vécu de pareil. C'est l'épreuve spéciale la moins agréable de ma carrière. C'était inconduisible. Neuville, qui était champion du monde il y a 2 ans, a dit: j'étais passager dans ma voiture, ce qui donne une idée de la difficulté qu'il avait à contrôler sa voiture. Fourmeau, Adrien Fourmeau, français, a dû s'arrêter dans une épreuve spéciale à cause de la très mauvaise visibilité due au brouillard et au fumigène. Donc un rallye très très difficile. Il a été remporté par un petit jeune de 24 ans, Oliver Solberg, dont le papa avait été champion du monde il y a quelques années, sur Toyota. Il devance Evans sur Toyota, Sébastien Ogier, 3e sur Toyota également. Le 4e, c'est Adrien Fourmeau, le français qui court sur Hyundai, qui précède Thierry Neuville, champion du monde il y a 2 ans, et Léo Rossel, le français, qui lui remporte la catégorie WRC2. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut dire à peu près que les VRC tout court doivent avoir, j'imagine, 450 chevaux. À peu près, on va dire que les VRC2, je pense, en ont 100 de moins à peu près. Et ça fait 2 compétitions dans le même rallye. Et là, je reprécise bien qu'on est en championnat du monde. Donc les meilleurs pilotes de rallye du monde sont présents. D'autant plus que le rallye de Monte-Carlo jouit d'un prestige assez phénoménal, puisque avec les 24 heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis, il fait partie des 3 épreuves de sport automobile les plus connues dans le monde. Petite parenthèse sur Oliver Solberg, qui a gagné le rallye avec, tenez-vous bien, 51 secondes d'avance et 2 minutes sur Evans et 2 minutes d'avance sur Ogier. Là où d'habitude les écarts se comptent en secondes, quelquefois à 2-3 secondes, quelquefois en dixième de seconde, après 3, 4 ou 5 heures de route. Donc, et lui, il a pris pratiquement 1 minute d'avance dès le début, qu'il a conservé cette avance pratiquement tout le temps. Il a fait preuve d'une maturité étonnante. Alors la question est-ce que ce sera le nouveau prodige? On ne sait pas. Dernière stade sur le rallye. Donc 344 km d'épreuve spéciale, donc de vitesse pure, sur 4 jours. Et Oliver Solberg, le vainqueur, a parcouru ça en 4 heures, 24 minutes et 59 secondes. Ceux qui veulent faire le calcul verront que la moyenne est relativement pas élevés. Ça confirme encore la difficulté de l'épreuve. Voilà pour le rallye. Alors maintenant, nous allons nous tourner vers l'équipage altiligérien, en l'occurrence capitulien, donc de Saint-Julien-Chapteuil, formé de David Bérard et Frédéric Lager. Est-ce que vous êtes là, David et Fred ?
Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde.
Bon, très bien. Alors, je vais, pour les auditeurs, je vais faire une petite présentation de vous. David, toi, tu es le pilote. Si je me trompe dans ma présentation, ben, tu me corrigeras après. Donc, David Bérard, 25e saison de sport auto. Début en rallye en 2000 comme copilote, puis à partir de 2003 comme pilote. Tu as participé deux fois à la finale de la Coupe de France des rallyes. J'explique simplement que pour participer à la finale, eh bien, il faut se qualifier. Donc il faut marquer suffisamment de points dans chacune des épreuves auxquelles on participe. Donc toi, tu as deux participations en finale de la Coupe de France en 2005 et 2006. Et puis c'était, si je ne me trompe pas, ta cinquième participation à un rallye de championnat du monde. Alors, est-ce que j'ai juste ou incomplet ? Dis-moi.
Parfait, Bernard, t'as bien travaillé, les recherches sont parfaites.
Vous m'avez facilité le travail, puis j'ai utilisé votre dossier de recherche de sponsor. Donc c'était cool. Oui, j'ai oublié de dire que tu as participé à plusieurs manches du championnat de France. Et au fait, puisqu'on parle de ça, tu estimes à combien le nombre total de rallyes auxquels tu as participé, à peu près ?
Alors, au total, je ne sais pas exactement, je sais qu'il y a, l'an dernier, quand on a loué la Skoda au Vleu-Auvergne,
oui.
C'était un petit cadeau qu'on s'était fait pour mon 100e rallye au volant.
Ah, 100e ?
Oui,
ah bah,
donc à peu près, voilà, je ne sais pas, on en a fait quelques-uns en attendant, je dois être à 105 rallyes par là, pour quelque chose près, au volant. Et après, j'ai dû en faire une vingtaine ou 25 en copilote, je pense.
Bon, donc on voit que tu es un mec expérimenté, quoi, déjà, en ce qui concerne les rallyes, c'est sûr. Hein. Alors, Fred, Frédéric Lager, donc domicilié à Saint-Julien-Chapteuil, juste à côté. C'est sa 10e saison de sport auto. Il a débuté en rallye en 1993 pendant 3 ans en tant que copilote avec des pilotes régionaux, que je connais bien. Et il a repris en 2017. Et c'est là qu'il est devenu copilote attitré, copilote ou coéquipier, peu importe, attitré de David. Je note 4 participations en championnat du monde, puisqu'en plus du Monte Carlo, il y a eu le Tour de Corse et le Rallye d'Espagne. Est-ce que j'ai... Et puis aussi, il faut pas que je ne veux pas oublier ton expérience en pilote. D'après mes recherches ou mes souvenirs, tu aurais participé à 5 rallyes en pilote. Est-ce que j'ai juste ?
Tu as tout juste, vu que c'est toi qui m'as mis dans le baquet le premier.
Oui.
Avec ton frère, qui m'a donné le virus. Je suppose de toi au grand, comment on dit ?
On n'a pas.
Voilà, j'ai tout.
On n'a pas de regrets. Hein. Je te confirme qu'on ne regrette rien.
Non plus.
Et puis toi, tu m'as retourné la politesse, puisqu'après mes 29 ans d'arrêt, tu m'as mis dans le baquet de copilote. Donc voilà, ça a été super sympa. Bien. Alors, votre rallye, vous étiez engagé dans le groupe RC4 sur une 208 de 200 chevaux à peu près, avec toutes les pièces de compétition en ce qui concerne la suspension, la transmission, le freinage, un moteur d'un peu plus de 200 chevaux. On voit que c'est un moteur de compétition parce que c'est une cylindrée de 1200 cm3 avec un turbo, donc il est quand même pas mal poussé. On vous a suivi plusieurs fois avec des interviews, où on essayait de faire le point tous les soirs. Vous avez eu 3 jours de course sur les 4. On va revenir sur le pourquoi vous avez arrêté. Et dans les épreuves spéciales, après un début avec une 56e place que je qualifierais de spéciale d'échauffement, vous vous êtes stabilisé autour de la 40-45e place et vous avez réalisé un 37e temps scratch dans la dernière épreuve spéciale que vous avez disputée. Donc ça, c'est... Enfin, même les autres places sont très, très bien, mais 37e dans un rallye comme ça, où il y a déjà une quarantaine de pilote professionnel ou semi-professionnel, on peut déjà dire bravo. Alors, pourquoi, enfin, comment s'est terminé votre rallye, où et quand et comment?
Du coup, ben, le rallye s'est terminé dans la spéciale, à l'arrivée de la spéciale numéro 12, pardon.
12, ouais, c'est ça. Ouais.
Et le numéro 12, en fait, sur un problème que personne ne peut anticiper. En fait, on a les boulons de support de boîte qui se sont cisaillés avec les chocs de changement de vitesse d'adhérence. Et du coup, le moteur a beaucoup bougé. Alors, je m'en suis aperçu au volant. J'ai soulagé un petit peu. J'ai essayé de gérer, pas trop secouer la voiture pour allier l'arrivée. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, le moteur bougeait tellement que ça a débranché la durite d'eau du bas du radiateur. Ça a vidangé le moteur. Et du coup, on a eu une surchauffe qui a cassé le moteur, en fait.
Ah oui, d'accord.
Du coup, on a été obligé d'arrêter. La spéciale utilisée, où on fait un joli temps. On a fait les 500 derniers mètres quasiment en roue libre.
Ah oui, ah oui.
Pour rallier l'arrivée, parce que la voiture avait chauffé et on pouvait plus rouler, quoi. On a eu de la chance d'être en descente pour pouvoir la finir.
Ah oui, d'accord. On en avait parlé un petit peu, mais je n'avais pas eu le détail. Donc ça veut dire petite cause, enfin si on peut appeler la rupture d'un boulon une petite cause, mais grands effets avec des conséquences en chaîne, quoi. Mais dis donc, dans cette spéciale, vous faites le 37e temps scratch dans ces conditions. C'est d'autant plus méritant, hein, parce que si vous avez fait 500 mètres ou à peu près en roue libre, bravo pour ce temps. Et après ce 37e temps scratch dans cette dernière épreuve spéciale, j'ai oublié de le dire, vous étiez 43e au scratch. Comme par hasard, le 43, le département de la Haute-Loire, ça c'est fort, mais surtout 3e sur 10 dans votre catégorie. Alors ça c'était très très fort. Bon, alors le lieu de l'abandon, et la cause, ben on l'a. Revenons un petit peu sur les conditions climatiques. J'ai dit que ça avait été un rallye de Monte-Carlo dantesque. Comment avez-vous vécu ça dans les épreuves spéciales et en liaison?
C'est sûr que c'était un vrai rallye Monte-Carlo avec des conditions d'adhérence très très changeantes, des conditions météo avec des reconnaissances initialement tout sur le sec. Et en fait, le jour du rallye, il a commencé à neiger le mercredi soir, après le check-down.
Oui.
Et après, c'était carrément un autre rallye avec de la glace, de la boue, de la pluie et de la neige. Donc voilà, et grâce à nos ouvreurs qui ont fait un boulot extraordinaire, hein, on a pu adapter un peu les notes. Et puis le travail d'équilibriste de David a permis de faire tous ces temps.
Oui.
Mais c'était difficile, même en liaison. C'était compliqué, on ne voyait pas grand chose. C'est la première fois que je roulais de nuit, moi en plus j'avais jamais fait ça, donc c'était une belle expérience.
Oui.
Aussi.
Oui.
Non, mais c'était un vrai rallye Monte Carlo comme on en a à voir toutes les années.
Mais comme on n'en avait pas eu depuis pas mal de temps, tout le monde l'a dit, et les pros aussi. Et la liaison, en fait, vous l'aviez reconnu, il y avait un roadbook qui était, donc le roadbook c'est le carnet d'itinéraire en français, qui était bien fait, qui vous a facilité la tâche, ou c'était un petit peu tendu, un peu stressant? C'était comment les liaisons?
Ouais, c'est un peu stressant parce qu'on n'avait pas fait toutes les liaisons en reconnaissance. Ah on n'a pas le temps, en fait. C'est compliqué. Les reconnaissances sont très timées et c'est des heures de passage bien, bien définies. Donc, si on veut faut couvrir les spéciales, il faut faire attention au temps. Et donc, certaines ont découvert le jour du rallye la liaison et d'autres qu'on avait déjà fait, par contre, sur le parcours, c'était plus facile. Mais les roadbooks sont relativement bien faits. Il faut juste qu'on soit dans le timing, quoi. Donc, on sort de la spéciale, en fait, et tout de suite, on est toujours dans la recherche de la route avec ce roadbook. Et d'autant plus que les temps impartis pour relier deux spéciales sont relativement courts. Il ne faut pas traîner. Surtout si on veut changer les pneus. On a changé les pneus une seule fois, en fait.
Eh bien, justement.
Et là, c'est vraiment le coup.
Une seule fois, j'allais te poser la question. Donc là, est-ce qu'avant, vous aviez eu la possibilité de vous entraîner pour les changements de pneus?
Pas du tout.
D'accord.
J'ai découvert ça. Alors, avant le changement de pneus, David m'a briefé sur ce que je devais faire.
Ouais.
Et voilà. Et du coup, on avait chacun un rôle un petit peu. Voilà. Lui, il avait le rôle le plus costaud, parce que quand même, il est plus jeune. Et plus fort,
plus costaud.
Non,
ouais.
Bien organisé, mais il ne fallait pas traîner. C'est vraiment timé, parce qu'après, il fallait aller au refueling. C'est-à-dire que, pareil, on avait des endroits pour reprendre de l'essence à leur camion. Très, voilà, il faut, c'est vraiment un timing très particulier, il ne faut pas traîner.
C'est sûr que pour l'avoir vécu un petit peu, j'ai vu et je précise à nos auditeurs qu'à partir du moment où on prend le départ du rallye le matin jusqu'à l'arrivée le soir, on garde de façon continuelle un œil sur la montre. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours un temps maximum pour aller d'un endroit à un autre. Et quand je dis maximum, en fait, c'est plus précis que ça, puisque si on doit pointer à une heure précise, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit pointer à cette heure-là, ni en avance, ni en retard. Donc j'imagine que si vous sur les liaisons que vous n'aviez pas reconnues et avec la gestion des pneus, changement de pneus, ça a dû vous mettre un stress assez important à David au volant, parce qu'il faut être concentré aussi sur la liaison, et à toi, Fred, pour le bon itinéraire et puis vérifier l'horaire en permanence.
Oui, on ne s'ennuie pas. Ça choque. Le plus gros choque. On est content, ça, quand on se dit. On a signé pour ça. Hein. Donc,
Oui. Non, mais c'est sûr, les gens ne se rendent pas trop compte, quelquefois, quand ils voient passer des voitures de rallye en liaison, qui passent pas forcément vite parce que les concurrents sont tenus de respecter le code de la route, mais participer à un rallye, il y a déjà un stress permanent au niveau des horaires, sans parler de rouler le plus vite possible. Enfin bref. Oui, tu as parlé un petit peu des ouvreurs. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur leur rôle et comment ils l'ont accompli ?
Donc, les ouvreurs passaient avant nous sur les routes. Ils nous marquaient tous les changements d'adhérence, tous les dangers qu'on n'avait pas vus. C'était très compliqué pour eux parce que comme on a reconnu sur le sec, on est parti sur des notes qui étaient pas du tout adaptées en glace, en neige et tous les conditions météo. Les premiers qui étaient passés au deuxième passage avec beaucoup, beaucoup de boue sur la route.
Oui.
Ils ont beaucoup travaillé. Ça a été très compliqué pour eux. En plus, il y avait beaucoup de soucis. Comme il y avait de la neige, les routes étaient bloquées par les spectateurs ou les gendarmes. Ils ont été obligés de pousser les gendarmes qui étaient coincés parce qu'il y avait trop de glace.
Ah, ça, c'est un con quand même.
C'était très timé pour eux. C'était très, très compliqué. Ils ont bien travaillé. Ils ont, comme la dernière fois qu'on a fait le rallye Monte-Carlo, ils ont fait un boulot parfait. Il n'y a eu aucune erreur, ils ont réussi à nous donner les notes dans les temps, enfin ils ont fait un super boulot. Après c'est un rôle très ingrat, nous il y a des soirs on rentrait à minuit et demi au gîte, eux ils repartaient à 2h du matin pour aller nous faire les prises de notes et la vérification. On s'est vu en décalé en fait toute la semaine avec eux.
Oui.
Ça a été très éprouvant je pense pour eux. Alors bon après on est toujours content d'être ouvreurs, je suppose, ils ont passé une belle semaine, c'est pas grave pour tout le monde, mais c'était très compliqué, mais ils ont fait le job, tout était parfait, il n'y a pas eu d'erreur, et ce qui le prouve, c'est qu'il n'y a pas eu de sortie de route derrière, donc le boulot était parfait, on avait les notes qui tombaient parfaitement.
Un beau travail d'équipe.
Oui, on peut les saluer. Juste une question, donc Fred, tu as photocopié toutes tes notes pour les donner aux ouvreurs, pour qu'ils ajoutent leurs corrections dessus, comment vous procédez ?
Ben pendant le temps d'assistance qu'on avait, on avait juste une demi-heure d'assistance entre deux tours. On essayait d'avoir au moins les deux premiers passages. Et après, comme on n'avait pas le temps et puis que dans la voiture, on ne peut pas communiquer par le téléphone, il nous faisait des photos, des feuilles qui sont numérotées. Là. On en avait numéroté chaque page. Et ça me permettait, pendant la liaison, de corriger les notes. En même temps qu'on annonçait la liaison, je pouvais corriger les notes sur le cahier.
D'accord, on dit que de certaines personnes qui ne savent pas faire deux choses à la fois, mais ça n'a pas été ton cas, c'est sûr. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et au fait, puisqu'on parle des notes, ça faisait combien de pages de notes à peu près que tu as recopiées à la main ?
Ouais, je ne sais pas, mais ça fait des spéciales de... Ouais. Moi, j'écris petit en plus parce que je mets pas mal... Mais ouais, certaines spéciales, ça faisait 20 pages, quoi.
Ah oui.
Bah, j'ai des spéciales de 30 km, donc voilà.
Ah oui.
C'est très tortueux, beaucoup de virages. Chaque virage est noté.
Bien sûr. Et puisqu'on parle des notes, David, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton système de notes ? Je précise que les notes, ce sont les indications que prennent les pilotes pour savoir, pour définir un petit peu le profil sur une route qu'ils ne connaissent pas. Et pendant le rallye, le copilote lit les notes pour le pilote. Alors, ton système de notes, David ?
Alors, le système de notes, c'est un peu personnel. Chaque pilote note un peu comme il l'entend, enfin, comme il se ressent bien. Moi, sur les prises de notes, elles sont un petit peu complexe pour certaines personnes, mais bon, moi, elle me parle beaucoup. Je note le degré du virage et le rapport de boîte en plus, c'est-à-dire qu'un virage à 100 degrés qui passe en troisième, je vais noter un virage, par exemple, un droit de 103. Le droit de 103 voudra dire 100 degrés en troisième, 92 et 90 degrés en deuxième. Après, il y a du sale, du jet, du referme, et il y a beaucoup d'autres précisions. Je demande beaucoup à mes copilotes. C'est quelque chose que il y a des gens qui simplifient un petit peu, qui notent un peu comme les consoles de jeu, virage 1, 2, 3, 4. Voilà. Ouais, ouais. J'aime bien quand c'est précis. J'aime bien savoir ce qu'il y a derrière. J'aime bien pour pouvoir anticiper au maximum. C'est un gros boulot pour le copilote. Il a beaucoup de choses à dire. Il faut pas qu'il en dise non plus beaucoup parce qu'il faut que j'arrive à le comprendre. Mais j'essaye d'être le plus précis possible pour qu'il y ait le moins de surprises en spécial en fait derrière.
D'accord, pour que quand tu commences à rouler, ben avec les notes, ça se déroule bien dans ta tête et tu sais comment adapter ton pilotage, c'est ça quoi. C'est le but des notes d'ailleurs.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est ce qui nous a sauvés un petit peu dans les spéciales très difficiles, dans le brouillard, sous la neige, où il y avait zéro visibilité.
Oui.
Les distances, on avait un petit transpondeur qui nous donnait les distances arco, donc on était sûr qu'elles étaient bonnes.
Ah oui, d'accord.
Et les deux virages, comme ça, comme on était dans le brouillard, je savais exactement comment ils tournaient, comment était le virage et la précision des notes a fait que ça a payé dans des spéciales très difficiles sans visibilité.
Ouais, c'est sûr que c'est hyper hyper important. On voyait au niveau professionnel, je me souviens d'un Tour de France auto où Fréclin avait des notes super précises dans Burzé. Je crois qu'il avait mis 2 ou 3 minutes à tout le monde. C'était dans le brouillard, bien sûr. Il avait fait ça grâce à la grande précision de ses notes, mais quand même. Foncer dans le brouillard, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut que quand tu as une note, quand on te donne une distance dans ta tête, tu la visualises un peu, tu arrives à l'évaluer.
Ouais, on arrive un petit peu. Après, c'est vraiment sur la quantité de virage. Bon, après, on sait qu'on arrive à juger à peu près la distance, tout en étant sur la défensive et en faisant très attention. Voilà, 50, 60 mètres, j'arriverai pas à juger la différence, mais je sais que je peux accélérer un petit peu. Voilà, je me méfie à partir d'une distance ou un temps. Je sais qu'il faut à peu près tant de temps pour faire une distance, de la vitesse.
Oui.
Mais bon, ça a bien fonctionné. Ça nous a permis sur des spéciales difficiles, on a même été surpris de rattraper les voitures devant.
Oui.
Parce que le système de notes a certainement bien fonctionné.
Non, mais c'est sûr, et j'avais oublié de le dire, je crois que c'est dans la spéciale 12, la dernière, où vous avez fait le 37e temps scratch, que c'est là, je crois, que vous avez doublé 2 voitures, ou dans une autre spéciale, je ne sais plus, vous en avez doublé 2, donc ça veut dire que vous l'avez mis, il y en a un à qui vous avez mis 2 minutes, quoi, et l'autre 1 minute dans la vue, et un peu plus, sans doute.
Ouais, c'est dans la 9, ça.
Ah,
c'est dans la 9, c'était de nuit dans le brouillard, et avec la neige.
Ah oui,
il y avait tout.
Il y avait tout, donc... D'accord. Je reviens sur ce qu'on vient de dire. Ça confirme, un, l'importance des notes, et deux, ça veut dire que vous avez des notes de bonne qualité. Alors là, je vais vous faire plaisir à tous les deux, parce qu'il faut que je fasse plaisir à Fred aussi quand même. Hein. C'est qu'elles étaient de bonne qualité et qu'elles étaient bien annoncées. Voilà, il faut le dire.
C'est le plus important, c'est qu'elles soient annoncées au bon moment.
ouais, c'est sûr. L'assistance, combien de passages à l'assistance chaque jour ?
Donc on avait un passage à l'assistance le matin pour le choix des pneus.
Oui.
Après on faisait à peu près un quart d'heure, 20 minutes,
ah
ça
oui.
dépendait.
Oui.
Il nous fallait déjà les informations des ouvreurs pour savoir le choix des pneus.
Oui.
Après on faisait une boucle de plusieurs spéciales, alors ou 2 ou 3 ça dépendait. Et, on partait sur 150-200 km au total avec les liaisons. On revenait, on avait une assistance d'à peu près 30 minutes.
D'accord.
Où là, l'idée est de regarder. Et on refaisait nouveau une nouvelle boucle et après on avait une petite assistance le soir avant de rentrer au parc fermé.
D'accord.
Donc on était sur à peu près 3 assistances, dont une très rapide. sur la journée.
D'accord. Et donc, l'assistance était assurée par la société à qui vous avez loué la voiture. Ils avaient combien de personnes pour l'assistance? Je crois qu'il y avait deux voitures, je crois. Redis-moi un petit peu ça.
Oui, alors il y avait deux voitures. Il y avait une autre voiture qui a très bien roulé, d'ailleurs, oui. Sur Monte Carlo, qui a été c'était une personne qui est divorcière, qui est de Gap, quoi, à peu près, à côté.
Ah oui, donc.
Dols, qui avait une voiture en quatre roues motrices, qui a été une des références du rallye. Ils en ont parlé dans les journaux. Il a bien, bien roulé.
Ah, d'accord.
Après, on avait deux mécanos et deux personnes qui géraient un petit peu la restauration et un petit peu qui s'occupaient un petit peu de nous pendant les assistances, pendant les temps de repos.
D'accord, d'accord. Et oui, tu viens de parler de quatre roues motrices. Eh ben, quand vous avez fait le 37e temps scratch et même dans d'autres spéciales, vous avez été devant plusieurs quatre roues motrices, ce qui était quand même un avantage déterminant, ça c'est sûr. Alors, puisqu'on parle de voiture, j'aimerais que David, tu nous dises comment tu as ressenti la voiture, comment elle s'est comportée, est-ce que tu étais complètement satisfait, impressionné par, je sais pas, le freinage, peut-être un petit peu déçu par la transmission. Explique-nous un petit peu tout ça.
La voiture, c'est parfait. Quoi. Enfin, les mécanos ont sorti un super boulot à chaque fois. On a eu des petites bricoles, mais qui ont été gérées immédiatement. C'est une voiture très, très agréable, très, très confortable à conduire.
Ouais.
On s'est senti vraiment à l'aise avec Fred dans la voiture. Moi, je l'ai même trouvé simple à conduire. Enfin, c'était... Il n'y avait rien de compliqué, en fait, dans la voiture. Tout était bien. On était vraiment... à l'aise dedans, et une voiture assez performante, très aseptisée, on sentait pas tellement que ça la vitesse, les bosses, voilà, on était, elles pardonnaient un petit peu, c'est vraiment une belle voiture de course qui est assez compétitive.
D'accord, d'accord. Et bien justement, puisqu'on parle de voiture, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les autres voitures que tu as pilotées dans ta carrière jusqu'à ce jour? Notamment la Skoda Rally 2, c'était il y a deux ans, je crois, ou l'an dernier, je ne me rappelle plus, au Velay. Quelles seraient là où les voitures que tu as trouvées les plus performantes, la plus facile, la plus difficile, celle qui t'a apporté le plus de plaisir?
La plus performante, ça a vraiment été la Skoda Rally 2, qui est une voiture vraiment impressionnante, 4 roues motrices, 300 chevaux. Voilà, c'est une voiture, quand on l'avait jamais conduit avec Fred, on a été au Velay Auvergne, bon, j'ai fait une petite erreur sur un petit freinage, j'ai juste tapé un petit ballot de paille, mais bon, on se battait on était cinquième au général, donc c'est une voiture qui était impressionnante, en sachant qu'on l'avait jamais conduit avant. Après, la voiture de rêve que j'ai eu la chance de conduire, c'est la Clio Super 1600.
Ah oui.
Qui est une voiture d'usine, une vraie voiture de course, qui est collector maintenant, qui est une voiture, il y en a très très peu dans le monde.
Oui.
C'est vraiment, j'ai eu de la chance de pouvoir rouler, d'ailleurs avec la même structure qu'avait cette voiture.
D'accord.
Par contre, qui est très exigeante, très très fatigante, quelque chose de très dur à conduire, mais un bonheur de fou. Et après, bon, mais toutes les voitures que j'ai eues, les Clio Williams, ma petite AX que j'adorais parce que c'est une voiture où c'était une nana à l'époque, quand on avait fait la finale à Nantes.
Oui.
Il n'y avait pas besoin de réfléchir, il fallait être à fond partout, et puis ça passait, et puis c'était du bonheur, voilà. Toutes les voitures ont été belles, même la Saxo M2 que mon frère me prêtait à l'époque, d'ailleurs que j'avais eu un petit... Je l'avais écrasé, ouais.
Bon, d'accord. D'accord.
C'était des belles voitures, la Saxo M2, je courais à l'époque avec Jean-Pierre Marie en copilote.
Oui.
C'est des voitures, on avait réussi à se battre pour le podium de groupe, on avait fini troisième du groupe N avec une voiture, une 1600, il y avait les Delic, une 1800 devant.
Ouais.
On se battait avec eux, on avait arrivé à rentrer dans des 20e temps scratch, donc c'était quand même des belles voitures. La plus belle, c'est vraiment la Clio Super 1600. La plus où j'ai pris du plaisir, c'est vraiment la Skoda, et là, la 208, c'est quand même une très belle voiture. C'est une voiture... une nouvelle génération qui est faite pour aller vite, en fait.
D'accord, oui, c'est une voiture moderne et puis développée par Peugeot, donc une usine, le service compétition d'une usine fait les choses au mieux, ça c'est clair. Et puisqu'on parle de la 208, au fait, et on a parlé de l'assistance, vous leur avez quand même fait changer un pare-choc. Non, il faut le dire.
Non, je me suis renseigné, en fait, j'ai fait une petite erreur. On l'avait noté en reconnaissance deux fois dans ce virage. J'arrivais pas, j'accélérais trop tôt, ça me jetait un petit peu à l'extérieur.
D'accord.
Et j'ai fait la même chose en spécial. Je me suis juste posé un tout petit peu dans le fossé. On a cassé le pare-choc. Rien de très grave. On perd un tout petit peu de temps parce que temps de repartir, on perd une minute. Hein, faut voilà.
Ah oui, oui.
On nous a pas fait perdre beaucoup de place à la classe, donc on a eu de la chance. Mm-hmm. Et après, voilà, c'est des rallyes qui sont très très compliqués, très sales, des grosses cordes, on roule dans les fossés parce que les premiers y passent, donc on est obligé d'y aller. C'est pas étonnant quand on casse un pare-choc, voilà, ça arrive. On n'a pas le choix. Si on veut pas sortir de la route, des fois, ben, faut sacrifier un peu la voiture, faut aller dans les fossés, et on est pas forcément un pare-choc près dans des rallyes comme ça, malheureusement.
Non, mais c'est vrai. Et puis, moi, j'ajouterais même une chose toute simple, c'est que terminer, même si ça s'est mal terminé pour vous, mais à accomplir autant de kilomètres en spécial avec une seule petite sortie, ça en soi, c'est déjà une performance. Parce que, ou alors, il faut vraiment assurer beaucoup, ce que vous n'avez pas fait. Hein. La preuve, je reviens sur ce 37e temps scratch, les connaisseurs du rallye sauront apprécier. Donc, bravo. Et maintenant, Fred, tu disais tout à l'heure que c'était la première fois que tu roulais de nuit, que tu balançais des notes la nuit, ou peut-être même que tu roulais de nuit. Alors, quel est le ressenti en termes de repères? Parce que, bon, de temps en temps, je ne sais pas, on vérifie un petit peu si on est bien ou bon. On regarde les repères qu'on a pris pendant les reconnaissances, si on sent qu'on a un petit doute dans les notes. En termes de repères, en termes de sensations, moi, je me rappelle avoir roulé de nuit, et quelquefois, on a le sentiment d'être seul au monde, c'est marrant. Alors, qu'est-ce que tu en dirais, toi, de cette expérience de roulage de nuit?
On n'a que le faisceau de phare là, et les virages qui s'enchaînent, donc c'est plutôt un rythme à trouver. Et en fait, une fois qu'on est dans le rythme, c'est super agréable. Et voilà, après les repères, effectivement, on a moins de repères, donc c'est plus compliqué. Alors après, des fois, ça me rendait service, parce que ça m'évitait de voir qu'il y avait des trous de chaque côté.
Ah oui, d'accord.
Comme ça.
Oui.
Voilà, mais j'ai confiance entière en David. D'ailleurs, je ne monterai pas à côté de quelqu'un d'autre, je pense que ça serait plus compliqué pour moi.
Oui.
Je
ne
suis pas sûr de monter à côté de lui, déjà. Et du coup, non, c'est très agréable, c'est un rythme à avoir. Et puis l'éclairage, quand même, est très performant maintenant, donc on voit bien quand même.
D'accord, mais l'environnement se réduit au faisceau lumineux, quoi. C'est toujours un petit peu particulier.
Oui. Oui, on a l'impression d'être dans un film comme ça.
Et au niveau du public, est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde? Est-ce que sur les spéciales, bon, à Monaco, bien sûr, mais sur les spéciales, c'était comment?
Alors, c'est énorme, il y a du monde partout dans chaque virage, il y a toutes les nationalités. C'est vraiment une belle ambiance. Voilà, quand les gens sortent aussi, ils aident la voiture à remettre sur la route. On a vu des images là sur d'autres concurrents. Dieu merci, on a un peu besoin d'eux, mais c'est chouette de voir cet engouement voilà, de tous les âges, de tous les pays, plein de nationalités différentes. C'est vraiment un chouette truc à vivre.
Ouais, c'est sûr, on le voit bien sur les vidéos. Et globalement, ah oui, vous avez rencontré un champion du monde, en l'occurrence Sébastien Ogier. Vous n'avez probablement pas eu le temps de beaucoup discuter. Mais comment ça s'est passé avec lui? Ça a été rapide, j'imagine? Non, je ne sais pas.
On a vu le premier jour, en fait, quand on était à Monaco, pour les vérifications administratives. On était derrière lui, d'ailleurs, au briefing aussi de sécurité.
D'accord.
En fait, super accessible. Voilà, spontanément, il a fait une photo avec lui. Enfin, voilà, il nous a souhaité bon rallye, nous aussi. On avait trois champions du monde sur la même photo. Non,
oui, j'ai vu. oui.
Non. Autant il pouvait paraître froid il y a quelques années, autant là, moi, je l'ai trouvé très, très ouvert, souriant. Enfin, c'était réel, quoi. Enfin, voilà.
D'accord. Ben, c'est toujours bon à entendre. Pour moi, personnellement, je trouve que l'attitude d'une personne fait aussi sa qualité, en plus du fait d'être champion du monde, donc performant, très talentueux. Moi, je trouve qu'une star dans tous les domaines, cinéma, musique, etc., bénéficie d'un plus si elle est accueillante, accessible. Moi, c'est une chose que j'apprécie beaucoup, et apparemment, vous l'avez bien apprécié aussi.
Ah oui, tout à fait.
Et l'accueil des amateurs dans un rallye de championnat du monde comme ça, comment ça se passe avec les organisateurs? Globalement, vous êtes bien reçus, bien traités comme de véritables concurrents et non pas des sous-concurrents, comme on pourrait éventuellement le dire?
C'est très normé, donc c'est très impersonnel. Hein, c'est des temps à respecter, c'est des pitiés à donner. Voilà, c'est tout en anglais. Alors, c'est là que je regrette de ne pas avoir assez travaillé l'anglais à l'école.
Oui.
c'est pour mes filles, hein, pour qu'elles continuent à bien travailler.
Oui, oui.
Voilà. Oui, oui. Et d'autres pas, tu perds. Et non, voilà, on est tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas de, différence notable.
C'est d'accord.
C'est très normé, très standardisé. Tout le monde au même point.
Et les relations avec les autres concurrents, bah, il y a déjà tous les Italiens de votre groupe, hein, RC4. Et les autres concurrents, globalement, on n'a pas trop le temps de discuter, mais c'est comment? C'est plutôt sympa, c'est plutôt froid, c'est plutôt impersonnel, c'est comment?
Bon, non, en fait, c'est vraiment très bien. On est tombé sur des équipages qui n'étaient pas forcément dans la classe, ou ouais. Surtout un petit peu au milieu d'eux. Vraiment très très agréable, très de bons conseils. On est tombé avec des équipages, il y en avait, hein, ça faisait plus de 15 rallyes Monte Carlo qui faisait, un autre plus de 20 rallyes.
Ah oui.
Vraiment des contracts, vraiment bon enfant, comme si on se connaissait depuis 20 ans. Quoi,
en fait. Un homonyme d'ailleurs qui s'appelle Bérard et qui court en alpine, alors qu'il oui. était derrière, on l'a mis derrière quand même à chaque fois.
J'ai vu,
mais
j'ai vu.
Très sympa. Voilà, et lui, ça doit faire son 15e Monte Carlo. Je crois qu'il les a tous fait.
Ah oui, d'accord.
Oui, en fait.
D'accord.
Depuis qu'il court, ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'était vraiment une très très bonne ambiance. Vraiment agréable.
Ouais.
Des bons moments, des petites plaisanteries, enfin, très décontracté.
Bon. C'est bien, parce qu'à ce niveau-là, on peut éventuellement imaginer qu'il y a des gens qui se prennent un petit peu la tête. Et puis, il y a aussi le côté stress et concentration. Mais si ça s'est passé comme ça, ben c'est magnifique. Voilà. Bon, ben écoutez, merci de toutes ces précisions. Félicitations encore, vous avez bien représenté, vous avez fait honneur au département de la Haute-Loire et au monde amateur, puisque je précise quand même une chose que je n'ai pas dite, c'est que il y a quelques années, le rallye de Monte-Carlo a accueilli 300 participants, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amateurs. Maintenant, c'est tombé, la formule a été changée, le parcours est beaucoup plus concentré dans une région, et en termes d'engagement, je crois qu'il y avait 66 concurrents au départ cette année, et avec si on met les 40 pros ou semi-pros, ça laisse une vingtaine de places, petite trentaine de places aux amateurs, aux véritables amateurs comme vous. Donc là, ça a été très bien. C'est déjà une performance d'être admis. Donc bravo pour ça. Bravo pour la belle représentation que vous avez fait de notre département. Et puis, eh bien, à une prochaine fois. Merci.
Merci de nous avoir suivis pendant cette semaine. C'était super sympa de votre part.
Merci beaucoup. Merci à tous.
Ça a été un plaisir.
Au revoir.
Allez, ciao, ciao.
Au revoir.